1, 2, 3, 4.
Dans cette séquence, nous allons voir comment définir le voisinage pour interpréter et construire des cartes de potentiel. Nous avons travaillé avec le modèle gravitaire, qui est un modèle qu'on va dire déterministe, dans la mesure où nous disposions d'une information observée, très bien connue, chiffrée, sur les échanges et sur les flux. Lorsque nous passons à des représentations de potentiel, potentiel de population, potentiel économique, nous ne disposons pas de cette information sur les échanges effectifs qui nous permettaient de calibrer un modèle. Nous devons donc imaginer les interactions qui sont susceptibles d'être engendrées à partir de ces cartes de potentiel. Et donc, une certaine mesure d'appréciation nous est donnée pour définir ce qu'on appelle un voisinage. Un voisinage géographique va être défini comme l'ensemble des entités géographiques qui sont proches d'un lieu donné. Et la proximité, bien entendu, est appréciée pour différents moyens de circulation à différents moments du temps. Et le potentiel que nous allons calculer dépend des formes que peut prendre dans l'espace l'interaction entre les personnes et entre les lieux. On va se définir une distance maximale possible qui sera la portée de ces interactions, celle au-delà de laquelle l'échange vraisemblablement n'a pas lieu ou tellement rarement que ce n'est pas la peine de le prendre en considération. Il reste différentes manières de disposer d'une information porteuse de possibilités d'interaction, que l'on soit sur un maillage plutôt géométrique, sur un découpage de l'espace en circonscription administrative, où les mouvements sont supposés répartis dans tout l'espace, ou bien sur un réseau où là, on suppose que l'interaction se propage seulement sur les segments, les canaux portés par le réseau. Même dans le cas d'un maillage simple, nous avons plusieurs possibilités pour définir le voisinage, la proximité géographique. Soit comme sur un damier d'échecs en considérant qu'il faut une frontière commune, deux cases pour être proche, ou bien un sommet commun, ou encore, comme c'est indiqué sur la figure, on peut considérer que toutes les cases qui ont un côté commun et un sommet commun sont voisines. Pour résumer la portée des interactions possibles, nous ne pouvons pas utiliser une moyenne dans la mesure où nous savons que les échanges à courte portée sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus fréquents que les échanges à longue portée, et définir une moyenne dans ces conditions de distribution statistique très dissymétrique n'a pas grand sens. Donc, nous imaginons une forme prise par les interactions, leur répartition dans l'espace. Si nous la supposons relativement uniforme, circulaire, nous définissons donc une force d'interaction qui s'exerce un peu avec la même intensité en tous les points à l'intérieur d'un même cercle. Ou bien si nous pensons que l'interaction se réduit dans l'espace au fur et à mesure qu'on s'éloigne du lieu considéré, nous pouvons utiliser une fonction gaussienne pour pondérer l'importance des échanges avec les carreaux dans ce voisinage, ou bien si nous pensons à des interactions qui diminuent très rapidement avec la distance, nous pouvons utiliser une fonction puissance négative ou une fonction exponentielle négative de la distance pour figurer découper un voisinage. La portée, par exemple, sur certaines cartes est définie comme la distance à partir de laquelle nous avons seulement une chance sur deux d'obtenir des interactions dans un temps donné, entre le lieu considéré comme centre et son voisinage. C'est ce qui est résumé par Claude Graland sur cette figure où il considère qu'il y a une fonction de frein de type gaussien à la distance dont la fréquence ici dans un temps de 3 heures à partir d'un point donné n'est plus que la moitié du nombre total des interactions possibles. C'est à partir de ces hypothèses qu'il a représenté sur cette carte du monde le potentiel de population, donc l'ensemble des populations accessibles en tout point dans une durée de 3 heures pour, bien entendu, les moyens de communication contemporains. Nous pouvons également utiliser les cartes de potentiel pour des représentations d'ordre économique, comme celle qui, ici, sur l'Europe et la Turquie, nous permet, avec des portées de l'ordre de 50 km, de voir encore les grands foyers économiques en Angleterre, autour de Paris, autour de Madrid, dans un certain nombre de villes, et même Athènes et Istanbul. Alors que sur une carte où la portée devient 100 km, ces foyers locaux sont beaucoup atténués et ce qui domine comme rendu de visualisation, c'est un modèle général centre-périphérie qui couvre toute l'Europe avec un centre qui est en fait une dorsale qui s'étend de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, en passant par la vallée du Rhin, un petit appendice dans la région parisienne et en Italie, et une décroissance de part et d'autre des valeurs de potentiel vers les périphéries. Rappelons malgré tout que ces représentations sont biaisées et qu'il y a des effets de bord du fait qu'on n'a pas l'information, par exemple, relative à l'Afrique du Nord ou à la Russie. Nous voyons donc que le voisinage utilisé pour ces calculs de potentiel peut varier considérablement. Il peut être discret quand on réfléchit de zone à zone comme sur un automate cellulaire, ou bien continu lorsqu'on travaille avec des fonctions de la distance qui prennent des valeurs en tout point, ou bien sur un réseau lorsque on raisonne par niveau de connexité. Donnons un exemple élaboré ici par M. Kadouri de voisinage sur un réseau défini par différents degrés de connectivité avec, en partant d'un semi de point initial, le degré 1 qui connecte avec le voisin le plus proche, le degré 2 qui connecte avec les voisins ensuite immédiatement accessible avec 2 étapes, 2 segments parcourus, et puis ainsi de suite jusqu'à obtenir le graphe complet qui est donné sur la droite. Il est possible également d'effectuer des calculs qui tiennent compte de la hiérarchie des niveaux de centre et de n'autoriser le voisinage que si on se lie avec un centre de niveau immédiatement supérieur ou bien 2 fois ou 3 fois supérieur comme sur ces différents petits schémas hiérarchisés, et cela conduit à négliger des liens possibles qui seraient figurés par exemple en rouge sur ce graphique du réseau hiérarchisé. Ces constructions théoriques ne sont pas sans intérêt pour les archéologues qui, à partir des sites qu'ils ont pu fouiller et observer, ont imaginé des relations, des chemins d'interaction possibles entre les différents lieux, comme ici entre l'Odève et Clermont-l'Hérault, pris d'abord pendant la période du Haut Empire romain, donc vers l'année -50, ou bien plus tard, au Moyen-Âge, où on le voit, c'est Clermont-l'Hérault qui, moins enclavé et dans un site de plaine, récupère la plupart des interactions avec les centres de peuplement voisins, tandis que l'extension du réseau de l'Odève ne peut pas se faire parce qu'elle est davantage enclavée dans une région un peu plus montagneuse. Nous avons donc là un nouvel exemple de l'utilisation du modèle gravitaire et de son dérivé modèle de potentiel pour effectuer des sortes de prévisions, des hypothèses théoriques, des modèles à partir desquels on va pouvoir effectuer d'autres recherches comme dans ces temps historiques.